Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même 70% des entreprises qui ont affiché des résultats records. Record, c'est le mot qui revient quasiment dans chaque communiqué.
Des résultats records, c'était le constat fin février de François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir sur BFM Business. 160 milliards et des poussières de millions. Jamais les entreprises de l'indice CAC 40 n'avaient dégagé autant de bénéfices en un exercice. C'est 4 fois plus qu'en 2020. Année plombée par la crise mondiale du Covid et son cortège de confinement. Mais c'est aussi le double de 2019, dernière année de normalité pour l'indice phare de la Bourse de Paris. Une bonne nouvelle pour les entreprises et leurs actionnaires, et qui sait aussi pour leurs salariés. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'année record des résultats du CAC 40. CAC 40, 7376 points, c'est le nouveau record historique en clôture pour l'indice CAC 40. Il date du 5 janvier. Après une année 2021 euphorique, la Bourse de Paris a un peu perdu de sa superbe. Entre incertitudes monétaires liées au changement de politique des banques centrales et stupeur due à la guerre en Ukraine, l'indice parisien est même redescendu sous les 6000 points le 8 mars, portant son repli à 20% depuis son record de janvier, ce qu'on appelle un marché baissier dans le jargon. Et s'il s'est repris depuis quelques jours, il le doit aussi à la belle santé des entreprises du CAC 40, comme en témoigne le bilan des résultats 2021, publié vendredi dernier dans Les Échos. Bonjour Bastien Bouchaud.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes journaliste au service marché des Échos. Vous suivez la bourse et vous vous êtes penché de près sur les résultats des entreprises du CAC 40, les plus grosses entreprises cotées à la Bourse de Paris. Et 2021, ça a été vraiment une année record pour les bénéfices des entreprises ?
Absolument, une année époustouflante même. On a 38 sociétés sur les 40 qui ont déjà donné leurs résultats pour 2021 et on arrive à plus de 160 milliards d'euros de bénéfices sur l'année, ce qui est absolument énorme. On n'avait jamais connu de tels résultats par le passé. Le dernier record, il remonte à 2007 et à l'époque, c'était 96 milliards d'euros. Donc, il y a vraiment un changement d'ordre de grandeur assez exceptionnel, historique, qui est assez incroyable en fait et qu'on peut expliquer de différentes façons, mais c'est surtout l'effet du rebond post-crise, post-Covid, avec une activité qui a explosé l'an dernier et les entreprises qui étaient tout à fait prêtes à tirer profit de cette croissance.
L'activité qui n'a pas été faite en 2020 a été reportée en 2021, c'est ce que vous a dit Catherine Garrigue d'Alliance GI. En témoigne d'ailleurs la hausse de 12% du chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40. C'est une croissance rare pour des entreprises de cette taille. Alors, ça n'explique pas tout, mais Bastien, ça veut dire que les entreprises françaises étaient équipées, outillées pour profiter de cette reprise mondiale ?
Exactement. En fait, pendant la première année de la crise du Covid, en 2020, les entreprises ont réagi très vite face au confinement qui était inédit, qui a mis à l'arrêt complet l'économie pendant quelques mois. Et ensuite, des vagues de réouverture et de refermeture, elles se sont adaptées. Elles ont pris des mesures d'économie. Elles ont été soutenues aussi très fortement par les pouvoirs publics, grâce au chômage partiel, grâce aux aides directes aux États-Unis notamment. Et du coup, elles étaient en ordre de bataille, en fait, en 2021, pour tirer profit de cette croissance, du rebond de la consommation, du regain d'intérêt des consommateurs, des entreprises. Et aussi, il y a une forte internationalisation du CAC 40 aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui sont des champions mondiaux dans le luxe, dans l'industrie, sur le pétrole. Total opère partout dans le monde. Et ces entreprises mondialisées ont pu bénéficier de la reprise en Asie, qui a été plus rapide qu'ailleurs. Elles ont aussi beaucoup profité du rebond de la consommation aux États-Unis au deuxième semestre 2021, qui a été aidé beaucoup par ces aides directes de l'État. Donc, il y a eu toute une conjonction de facteurs, en fait, qui ont permis à tous les moteurs du CAC 40, que ce soit le luxe, la tech, ou la vieille économie comme la finance, le pétrole, les matières premières, de tous jouer en même temps et à fond. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des résultats aussi exceptionnels.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une performance qui ne doit pas à une entreprise, hein, c'est vraiment partagé.
Oui, oui, quasiment toutes les entreprises ont des profits en hausse. Il y a uniquement Unibail, Rodamco, Westfield, la foncière commerciale, qui reste très marquée par la crise du Covid, qui est encore en perte. Sinon, c'est tout le monde a des profits positifs.
Et des profits records, surtout.
Et des profits records, dans beaucoup de cas. Ouais. Il y a plus de la moitié des entreprises du CAC 40 qui affichent des profits records. Et dans certains cas qui sont exceptionnels, on peut noter Vivendi, en particulier, qui affiche près de 25 milliards d'euros de profits. Alors, c'est assez exceptionnel. C'est lié à la déconsolidation de la major musicale UMG. Donc, c'est un bénéfice comptable plus qu'autre chose. Mais il n'empêche, même en retirant cet effet exceptionnel, on reste sur des niveaux historiques. Total, par exemple, a quasiment 15 milliards de bénéfices. Stellantis, qui est issu de la fusion de Peugeot et de FCA, affiche plus de 13 milliards de bénéfices. C'est pareil pour ArcelorMittal, le sidérurgiste, qui a profité du rebond des prix des matières premières l'an dernier. Et parmi les sociétés à plus de 10 milliards d'euros de bénéfices, on retrouve également LVMH, qui est la plus grande capitalisation en Europe, la première capitalisation du CAC 40, et qui affiche 12 milliards de bénéfices, ce qui est une hausse de plus des deux tiers par rapport à son niveau en 2019. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut regarder souvent, c'est quel est le niveau en 2021 par rapport à 2019, pas par rapport à 2020, qui était une année exceptionnellement plombée par le Covid.
La guerre en Ukraine a pesé sur la performance des actions, mais aussi les craintes liées au changement de politique des banques centrales qui ont soutenu les marchés ces dernières années. Malgré tout, les actions limitent leurs pertes. Elles le doivent aussi à ces résultats rassurants pour la santé des grandes entreprises.
Forcément, parce que les entreprises ont beaucoup de cash. Parmi les points à noter, c'est qu'elles ont généré beaucoup de liquidités en fait l'année dernière. Donc elles sont dans une position assez solide pour faire face à tous les défis de cette année. Mais effectivement, les dangers, les vulnérabilités de cette année se multiplient chaque jour, on a l'impression. Donc c'est pour ça que depuis le début de l'année, c'est très compliqué sur les marchés. Certes, on a beaucoup remonté ces derniers jours, mais on avait beaucoup baissé après le début de l'invasion russe en Ukraine. On reste en baisse de plus d'autour de 10% par rapport au record de début janvier. On sent bien quand même qu'on est dans une période plus compliquée. On n'est plus dans le rebond, tout va bien, l'horizon est dégagé. Non, c'est plus vraiment ça. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur comment ça va se passer cette année. Est-ce que les entreprises pourront protéger leurs marges? Comment elles vont faire face à l'envolée des prix des matières premières, de l'énergie? Comment est-ce que les consommateurs aussi vont réagir? C'est-à-dire que le pouvoir d'achat va forcément prendre un coup, donc les consommateurs vont moins consommer, ce qui veut dire moins d'activité pour certaines entreprises. Donc tout ça, c'est des questions qui sont un peu en suspens aujourd'hui parce qu'on ne sait pas trop comment la guerre en Ukraine va évoluer. Les marchés sont très volatiles. Il y a des hausses et des baisses quasiment tous les jours assez impressionnantes. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué de se projeter sur l'année qui vient que ce qu'on pouvait penser en début d'année. Et effectivement, il y a ces questions de resserrement de la politique monétaire qui rentrent également en jeu. Donc tout ça fait que c'est une situation un peu plus complexe quand même aujourd'hui.
On imagine que ce sera difficile de faire mieux en 2022 après cette année absolument exceptionnelle pour les profits des entreprises du CAC 40. Une dernière question, qu'est-ce qu'elles vont faire justement de tous ces profits?
Ben, elles vont récompenser leurs actionnaires déjà, parce que elles se sont beaucoup serrées la ceinture en 2020 et les actionnaires aussi. Donc maintenant qu'elles ont généré beaucoup de profits, elles ont rétabli les dividendes et souvent relevé les dividendes par rapport au niveau d'avant crise. Donc au global, on a dépassé le niveau de 2019 au niveau des dividendes. Elles ont aussi mis à profit ces bénéfices pour mettre en place des programmes de rachat d'actions. Donc on a vu notamment Total, ArcelorMittal, au niveau des banques, il y a Société Générale, BNP Paribas l'an dernier, il y a AXA qu'on a annoncé un nouveau aussi, l'assureur. Donc il y a une vraie volonté de rendre un peu aux investisseurs qui sont restés auprès des entreprises pendant ces deux années de crise, de leur rendre un peu l'appareil. Et ce qu'espèrent beaucoup d'économistes, en tout cas de stratèges de marché, c'est qu'ils en profitent aussi pour investir en fait. Parce qu'après après une décennie qui a été un peu compliquée en Europe particulièrement, il y a des problèmes de production en fait aujourd'hui. C'est aussi ce qui a joué dans la montée de l'inflation ces derniers mois. c'est que les entreprises n'ont pas forcément les moyens de répondre à la hausse de la demande dernièrement. Peut-être, c'est l'espoir en tout cas, ça pourrait continuer à alimenter l'activité, la hausse des bénéfices les années qui viennent. Ce serait d'avoir une vraie dynamique de retour d'investissement physique et global, quoi.
Vous savez, j'ai dit une fois, il ne faut pas trop... Je suis capable d'y revenir, hein, de remettre ça sur la table. Tout le monde a eu une année blanche l'année dernière. Hein, tout le monde, à peu près tout le monde. Sauf ceux qui ont beaucoup. Et qu'est-ce que je vois à la sortie? Ils se sont remplis les poches. Je peux donc dire parfaitement, le CAC 40, vous avez fait 53 milliards une année, 130 milliards la suivante. Avec ça, il y a de quoi mettre 1 million de personnes au travail pendant un an à 2000 euros par mois. Donc on peut dire à ceux qui ont eu beaucoup, bah, cette fois-ci, vous mettez la main à la poche pour que les autres arrivent à respirer, à vivre enfin.
Jean-Luc Mélenchon, invité de TF1 début février, va pouvoir refaire ses calculs. Le CAC 40 a fait 160 milliards de profits en 2021. Ne reste plus qu'à attendre le prochain communiqué d'Oxfam sur le partage des richesses au sein des entreprises pour être complet. Une chose est sûre, le chiffre devrait encore faire réagir et poser la question du partage des profits. J'ai appelé Hervé Joly. Il est historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste des entreprises et des élites dirigeantes. Bonjour Hervé Joly.
Bonjour.
160 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40, c'est du jamais vu, c'est deux fois plus qu'en 2019. D'abord, on a envie de dire que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
Oui, c'est vrai qu'en France, on a tendance à avoir peur des profits ou à les avoir presque honteux ou à les cacher parce qu'on sait qu'ils sont susceptibles tout de suite d'être attaqués. Mais effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle que les entreprises du CAC 40 fassent autant de bénéfices, surtout après la grave crise qu'elles viennent de traverser, même si cette crise s'enchaîne avec une nouvelle dont on ne connaît pas encore complètement les conséquences économiques, mais qui risque d'être probablement encore plus forte avec cette hausse vertigineuse, notamment des prix de l'énergie. Puis alors, ces profits des entreprises du CAC 40, il faut tout de suite rappeler que ça ne reflète pas complètement l'état de santé de l'économie française, puisque les entreprises du CAC 40, d'abord, ne représentent pas toute l'économie française, et puis il y a aussi, bien sûr, tout un tissu d'entreprises moins grandes, moyennes, petites, qui ne sont pas dans le CAC 40, mais qui sont aussi très importantes. Et puis, par ailleurs, ces entreprises du CAC 40, elles ont des activités très importantes à l'étranger. Alors, variables, certaines sont plus nationales, par leur nature de leurs activités, d'autres sont très internationales, voire même parfois ne sont pas vraiment françaises, et ont une part considérable de leurs activités, non seulement de vente, mais souvent de production aussi, qui sont à l'étranger. Donc la bonne santé du CAC 40 reflète aussi en grande partie la bonne santé de l'économie mondiale en général.
Et un mot que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est le terme de honteux. Pourquoi la publication des résultats du CAC 40 est-elle parfois associée à cette image de profit honteux?
En France, on sait qu'on a une relation un peu particulière à l'argent. L'argent était tabou, on a longtemps caché l'argent qu'on pouvait gagner. On se souvient de l'impact de révélations, par exemple des feuilles d'impôts de certaines personnalités, comme l'ancien patron de Peugeot, Jacques Calvé, à la fin des années 80. Ou de révélations sur des salaires importants. Bon, tout de suite, il y avait une grande gêne. Les intéressés soit n'assumaient pas les revenus considérables qu'ils pouvaient avoir. Bon, tout ça a quand même beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, on a une transparence beaucoup plus grande. Non seulement on connaît les revenus considérables, je sais pas, des artistes ou des sportifs, mais on connaît aussi, dans la mesure où les sociétés sont cotées en bourse, au moins, des revenus importants des grands patrons. Mais bon, la France garde toujours une gêne par rapport à cela, notamment, évidemment, il y a toute une partie de l'opinion publique, la gauche en particulier, qui est toujours très critique, très sensible aux inégalités, donc très critique par rapport aux profits. Et reconnaître ces profits, c'est tout de suite le risque de les mettre sur la table et de les mettre en discussion. C'est-à-dire que quand vous affichez des profits, eh bien, il y aura toujours des gens pour dire, eh bien, il faut quelque part confisquer ces profits. Alors, après les guerres, on a confisqué ce qu'on appelait à l'époque les profits illicites, ce qui avait été fait dans le commerce de la collaboration avec les Allemands. Aujourd'hui, les profits ne sont plus considérés comme illicites, mais ils sont toujours un peu encombrants. Donc, il y a toujours cette idée qui est présente à l'extrême gauche, mais dans une extrême gauche qui peut parfois s'élargir, qu'il faut faire payer les riches, confisquer une part plus importante des profits, etc., que leur redistribution aux seuls actionnaires serait socialement extrêmement injuste, etc. Donc cette idée est très présente. Donc il y a toujours un risque pour une entreprise à afficher ses profits.
Ah, c'est une musique que l'on a pu entendre avec la publication des profits Total, plus de 13,5 milliards d'euros dans un contexte de flambée des prix de l'essence. Total aujourd'hui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur le dos des Français, a déclaré Yannick Jadot. Il n'y a qu'à leur prendre, a ajouté Jean-Luc Mélenchon. Alors là, c'est moins le salarié que le client qui est mis en avant. Mais la plupart du temps, on oppose l'actionnaire au salarié. À chaque bilan des résultats du CAC 40 renaît le débat sur la répartition des profits des entreprises. Les actionnaires vont obtenir des dividendes qu'on imagine généreux cette année. Ils en ont été privés globalement en 2020 avec la crise du Covid. Et la tentation est grande de dire « et les salariés dans tout ça ?»
Alors on parle toujours de ces dividendes qu'on distribue, on entend souvent ça, surtout dans la campagne électorale aujourd'hui, les actionnaires qui se gavent de dividendes. Bon, il faut rappeler que pour un actionnaire, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est pas avec les dividendes, c'est avec l'augmentation des actions. Et qu'on sait qu'il y a des très grandes entreprises qui ont des valeurs boursières absolument considérables, qui ne distribuent pas de dividendes, ou qui sont des années sans en distribuer. C'est par exemple le cas d'Amazon. Pourquoi ? Parce que leurs cours augmentent tellement régulièrement qu'elles n'ont pas besoin de distribuer des dividendes. Les actionnaires se rémunèrent autrement. Ils se rémunèrent par l'augmentation de la valeur des actions. Et si, bon, alors c'est une rémunération virtuelle, évidemment, mais s'ils veulent à un certain moment gagner de l'argent, il leur suffit à ce moment-là de vendre leurs actions qu'ils vendront beaucoup plus cher que ce qu'ils les ont achetés il y a 1, 2 ou 3 ans. Bon, le salarié, lui, ne voit pas ses salaires augmenter dans des proportions semblables au cours de bourse, ça c'est certain. Alors, le salarié peut avoir un intéressement au résultat, mais qui ne représente pas une part considérable de son salaire. Mais ça, d'ailleurs, les syndicats eux-mêmes n'y sont pas favorables. Ils préfèrent plutôt, en général, mettre l'accent sur l'augmentation des salaires fixes, parce que autant un actionnaire peut se permettre, a priori, parce que pour lui c'est un revenu supplémentaire, annexe, un actionnaire peut se permettre d'avoir une fluctuation dans ses revenus. Un salarié qui vit à titre principal de son salaire, lui, il ne peut pas se permettre d'être soumis à de telles fluctuations. Donc évidemment, le salarié, il a dans les périodes difficiles, par son salaire fixe, une garantie que l'actionnaire n'a pas, parce que le salarié, il touchera son salaire quoi qu'il arrive. Sauf catastrophe, évidemment, s'il est licencié ou si l'entreprise disparaît, mais sinon, il touchera son salaire. En revanche, évidemment, dans les périodes très favorables, l'actionnaire, lui, il voit ses cours augmenter fortement, il voit éventuellement son dividende augmenter, alors que le salarié, ça sera plus marginal, parce que, bon, il sera peut-être d'une augmentation légèrement supérieure de son salaire, mais qui ne sera pas très importante, et puis l'intéressement aux résultats dont il bénéficie éventuellement, et c'est souvent le cas dans les entreprises du CAC 40, ne représente qu'une faible part de ses revenus. Alors, il faut aussi insister sur le fait que les dividendes, alors ça apparaît très important évidemment quand on donne la somme globale qui est distribuée aux actionnaires pour une entreprise, hein, plusieurs milliards d'euros qui vont être distribués en dividendes aux actionnaires. Alors, il faut déjà dire que si on le compare à la masse salariale des entreprises, en général, c'est une somme qui est beaucoup plus faible parce que, en général, une entreprise du CAC 40, elle a plusieurs dizaines de milliers de salariés et donc elle a une masse salariale considérable et que les quelques milliards éventuellement qu'elle va pouvoir distribuer en dividendes n'en représentent qu'une partie, éventuellement assez faible. Et puis, par ailleurs, il faut dire que les dividendes, alors, quand on les rapporte à la valeur des actions, ça ne représente pas tant que ça. C'est-à-dire que si je prends par exemple la plupart des entreprises du CAC 40, cette année, vont distribuer un dividende qui représente à peu près 3,5% de leur valeur boursière. Ce n'est pas énorme finalement, par rapport au risque éventuellement qui peut être couru. Parce que si vous êtes malheureux, vous achetez vos actions dans une mauvaise conjoncture, vous pouvez placer 10 000 euros en actions et n'avoir plus que 5 ou 6 000 quelques mois plus tard. Donc c'est quand même un risque. C'est l'idée. Alors après, on peut dire que c'est de gagner de l'argent à ne rien faire, etc. On peut faire toutes les critiques que l'on veut à ce principe du capitalisme, hein, qui est que lorsque l'on place de l'argent quelque part, et surtout si ce placement est à risque comme dans une entreprise, eh bien, on a un rendement un peu supérieur à celui d'un placement qui n'est pas à risque.
Et selon une étude de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, 59% de la valeur créée par l'entreprise va aux salariés, principalement via les salaires, leur rémunération. 19% va à l'investissement, 17% part en impôts et 5% va aux actionnaires. Il y a souvent une confusion entre le partage des profits et le partage de la valeur créée par le travail. Mais la belle année 2021 des profits des entreprises devrait tout de même accentuer la pression sur la question des rémunérations, surtout dans un contexte de poussée inflationniste. Alors quoi qu'il en soit, il y a une réflexion pour permettre aux salariés de mieux profiter de la performance financière des entreprises. Certains plaident pour la création d'un dividende salarié, d'autres pour le développement de l'actionnariat salarié. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé Joly ?
Oui, ben ça c'est très clairement une revendication ou un souhait du monde patronal, je dirais peut-être des salariés, pas tellement du monde syndical, parce qu'il y a une certaine gêne par rapport à l'actionnariat salarié. Effectivement, l'actionnariat salarié, ça marche très bien dans certaines entreprises, par exemple comme Bouygues, qui arrive à avoir des taux non négligeables du capital qui sont détenus par les salariés. Il faut bien voir que c'est intéressant pour les salariés parce que généralement, on leur donne la possibilité d'acquérir ces actions dans de bonnes conditions. Parfois, elles peuvent être distribuées gratuitement ou du moins, ils les achètent à un prix intéressant. Et puis ensuite, ces actions vont leur rapporter des revenus complémentaires sous forme de dividendes. Mais c'est très intéressant aussi pour les entreprises. Parce que d'abord, cela permet, et lorsqu'on a un capital ouvert en bourse, ça peut être très important d'avoir des actionnaires sûrs, parce qu'évidemment, des salariés, généralement, ils vont pouvoir soutenir en cas d'attaque d'offres publiques d'achat, d'OPA contre une entreprise. Généralement, les salariés sont des actionnaires fidèles. Ils vont pas aller vendre leurs actions, a priori, à un prédateur. Ils vont plutôt soutenir la direction en place. Donc déjà, si on a 5, 10%, voire 15% d'actionnariat salarié, eh bien, c'est déjà une bonne partie en Assemblée Générale de votes qui peuvent être assurés pour la direction en place. Et en plus, pour des entreprises, pour des patrons, avoir des salariés actionnaires, bah, c'est une manière donc de les associer aux résultats et notamment de leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à ce que l'entreprise fasse des profits, ne soit pas mise en difficulté, par exemple, par des grèves. Si on est actionnaire de son entreprise, eh bien, on sera peut-être moins enclin à faire grève, parce que si on fait grève, on risque d'affecter la rentabilité de l'entreprise. Et quelque part, si on est actionnaire de l'entreprise, quand on fait grève contre soi-même. Donc, évidemment, c'est une manière, l'actionnariat salarié, de brouiller la frontière, l'opposition entre capital-travail. C'est une atteinte à la lutte des classes, pour employer des termes un peu historiques. Et donc, les syndicats de salariés sont gênés par rapport à cette question parce que, bon, à la fois, ils sentent bien que souvent leurs adhérents, leurs électeurs sont enclins à participer à cet actionnariat salarié, mais en même temps, pour les syndicats, ça fait des salariés des petits capitalistes qui peuvent du coup être dans une logique qui sera moins de s'opposer à la politique, à la direction des entreprises. Donc on voit qu'il n'y a pas une revendication très forte de la part des syndicats de développer cet actionnariat salarié.
Merci Hervé Joly, historien, directeur de recherche au CNRS, et merci Bastien Bouchaud, journaliste au service marché des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui, cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.